Et maintenant, sur Globule Radio, de la Haute-Savoie à la Haute-Mer. En 2020, Marie Morgan, une des fondatrices de Globule, a quitté Chamonix pour découvrir un monde sans hiver.
Bienvenue. Vous écoutez Un monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, un monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien, cette envie de tout quitter pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai? C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer. Mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Je vais suivre Vernon, mon compagnon, en Indonésie et tenter un autre mode de vie, nomade, sur un voilier de 12 mètres de long. Une aventure en mer, à l'autre bout de la Terre. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour parcourir le monde, ou tout simplement que vous aimez les récits de voyage, ce podcast est fait pour vous. Précédemment, dans un monde sans hiver, Vernon et moi sommes au mouillage le long de l'île de Friwen à Raja Ampat, où nous avons fait le plein de nourriture fraîche. Cela fait près de 2 semaines que nous sommes à Friwen. Le mois de juin commence et je réalise que déjà 2 mois et demi se sont écoulés depuis notre arrivée en Indonésie. Le temps passe si vite ici. J'adore ce mouillage car on peut y faire une variété d'explorations et d'activités. Viviane et Christian nous ont rejoints. Les locaux viennent nous rendre visite en bateau presque tous les jours pour nous proposer du poisson frais et des noix de coco vertes. Peu à peu, ils ont eu confiance et nous ont invités à venir sur l'île pour nous dégourdir les jambes. Leurs craintes sur le fait que nous soyons de potentiels vecteurs du Covid se sont peu à peu estompées. Je me promène souvent sur la plage en compagnie de Viviane, près d'un petit chantier où des ouvriers construisent de nouvelles échoppes de plage dans l'attente de la réouverture de l'Indonésie pour les touristes. Ils travaillent en musique le plus souvent, à côté d'un sound system grésillant. Un monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, un monde sans hiver. Au coucher du soleil, Vernon et moi partons régulièrement dans un bras de rivière en face de notre mouillage pour observer les oiseaux. Il y a ici une variété d'espèces d'oiseaux qui me fascine. Je me découvre une véritable passion. Ces animaux me passionnent et je peux rester des heures statique, jumelles et caméras à la main, à guetter le moindre mouvement dans le ciel ou les branchages alentour. J'essaye de retenir leurs formes et couleurs pour rechercher leur nom plus tard. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Je n'ai pas à bord d'abécédaire des oiseaux du coin et Internet n'est pas très documenté à ce sujet. Je finis par retrouver une étude scientifique qui liste les espèces d'oiseaux avec leur nom latin. Elle n'est pas documentée d'images, mais je m'aide de cette liste pour retrouver les plus beaux spécimens que j'ai pu apercevoir, comme le cacatoès à hupe jaune, un grand perroquet blanc avec une houppette de longues plumes jaunes sur la tête, le cacatoès noir à la même stature que le précédent, mais avec un plumage noir et des joues rouges vifs. Le guépier arc-en-ciel, petit oiseau au dégradé turquoise, vert et jaune, au long bec noir. Le corollis à front jaune, tout petit, d'un vert pomme se fondant dans les feuillages, ne se laissant repérer que grâce à sa queue et son bec rouge et sa tache orange sur le front. Et mes préférés, les plus impressionnants, les calaos. Et plus particulièrement, le calao de Blit. Ils sont immenses et noirs, avec un long bec jaune et une corne sur le front. Le bruit de leurs ailes quand ils nous survolent me captive. Vernon n'apprécie pas autant que moi les sorties d'observation. Probablement de par son tempérament très actif, il ne supporte pas vraiment de rester statique pendant des heures. Viviane et Christian ne semblent guère intéressés par cette activité, mais ce n'est pas grave. Je pars mener mes observations en solitaire. J'aimerais avoir la chance d'apercevoir un oiseau du paradis rouge, espèce endémique de Raja Ampat. Vernon m'emmène sur le canot explorer les mangroves. Des centaines de petits bras de rivière d'eau salée parcourent l'île de Bessir. Nous les remontons sur une eau cristalline au lit de rivière vert céladon. Des milliers de coraux colorés tapissent leur fond peu profond. On y croise aussi des crabes et des méduses colorées. Ces rivières ne sont praticables qu'à marée haute. Nous naviguons sur de longues routes sinueuses d'eau, bordées de hautes racines de mangroves et sous le toit de leurs branchages au feuillage vert vif. Les bruits et le décor sont juste magiques. Bien que je sache parfaitement que ce n'est pas vrai, j'ai le sentiment que nous sommes les premiers humains à pénétrer cet Éden. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du spot de plongée The Wall derrière l'île de Friwen. Mais on trouve aussi un autre incroyable lieu où enfiler son masque et son tuba. Un éco-resort en face de Friwen a l'un des parcs coralliens le plus incroyable de la région. Il longe l'île de Bessir et le récif s'avance loin au large jusqu'à l'embouchure de deux bras de mer, créant des courants puissants attirant de nombreuses espèces marines. Il n'est pas rare de croiser des baleines et des raies manta entre l'île de Bessir et de Friwen, car les fonds sont très profonds dans un espace très étroit. Les courants y sont propices pour la chasse au plancton tant apprécié des mammifères marins. Nous passons des heures avec Viviane et Christian dans l'eau. Des plus petits aux plus gros animaux, on peut y observer une variété surprenante d'espèces. J'ai vu ici de nombreuses tortues imbriquées, de très beaux spécimens de requins à pointe noire, un poisson crocodile de Beaufort, des serpents tricoréiés, les magnifiques et gracieuses raies manta, des bancs immenses de barracuda, quelques nudibranches, la crevette endémique mantis et ses couleurs turquoise et orange, des bénitiers géants, ses énormes coquillages ouverts à la chair aux couleurs turquoise et violette, et des milliers de poissons coralliens aux diverses formes et couleurs fluo.
Un monde sans hiver. Un monde sans
du vent hiver. Dans vos voiles, avec Globule Radio.
La suite d'un monde sans hiver dans un instant.
Globule Radio.
Le soleil, la mer, vous écoutez Un Monde Sans Hiver.
Dari mata turun ke hati cinta datang sang mopigi. Cuma dengan lesa jantung hati beda pun cinta di dalam hati.
Un monde sans hiver, l'aventure tropicale. Les journées passent à toute vitesse quand on s'amuse. Mais Vernon se lasse un peu. Si pour moi tout est nouveau, et bien qu'il ait découvert quelques nouveaux spots inédits, Frewen, il y a déjà passé de nombreux mois. Et notre départ vers l'ouest de l'Indonésie commence à le titiller. Mais nous sommes toujours dans l'incertitude de pouvoir se déplacer aisément dans le pays avec la crise du Covid. Nous en discutons longuement et nous arrivons à la conclusion qu'il va falloir tôt ou tard se rendre en ville pour savoir ce qu'il en est. Viviane est allée faire des courses à Waisai ces jours. Étant malaisienne, elle parle une langue quasiment identique au Bahasa indonésien. Et sa couleur de peau mate l'empêche d'être directement cataloguée comme étrangère en entrant dans la ville. Nous lui rendons visite après son retour pour savoir ce qu'il en est des règles pour les étrangers voulant entrer dans la ville de Waisai. Viviane nous raconte que des protocoles ont été mis en place. Pour rentrer dans la ville, il faut se rendre à un POSCO, c'est-à-dire un poste Covid, pour se faire désinfecter, donner notre nom et notre nationalité et vérifier que nous sommes en possession d'un masque et que nous le portons. Ensuite, nous sommes libres de nous rendre en ville. C'est parfait. Nous allons pouvoir rencontrer les autorités locales et en savoir un peu plus sur nos droits de mouvement sur le territoire indonésien. Mais avant de nous jeter dans la gueule du loup, nous décidons de nous rendre sur l'île de Pam pour quelques jours, profiter encore un peu du calme et de la nature, avant de se replonger dans l'agitation du monde. Pam, souvent appelée à tort « femme », est une île plate. D'immenses plages de sable blanc bordent des cultures de cocotiers. Ici vit une communauté matriarcale qui produit une huile de coco de qualité pour le marché étranger. J'adorerais les rencontrer, mais nous sentons déjà un peu de réserve de la part des pêcheurs et des travailleurs que nous croisons. Nous ne souhaitons pas nous imposer et créer des angoisses inutiles. Nous jetons l'ancre loin du village pour ne pas ennuyer les locaux. Encore une fois, les récifs coralliens de cette île sont extraordinaires. D'un tout autre genre que tous ceux que l'on a pu voir sur d'autres mouillages. Les récifs ici sont peu profonds, avec d'énormes trous et d'énormes dômes, créant des milliers de cachettes pour les animaux marins. Ici, les poissons sont immenses. Je sursaute plusieurs fois, manquant de m'étouffer dans mon tuba, en tombant nez à nez avec des bancs de poissons de plus d'un mètre dans des eaux peu profondes. Il y a aussi beaucoup de requins. Ici, les locaux ne doivent pas beaucoup pêcher. La faune est d'une richesse fabuleuse. Le soir, nous allons sur la plage dîner près d'un feu. On trouve sur le sable des coquillages immenses. Des bénitiers aussi grands que des lavabos, des nautilus et des lambis, tous en parfait état. On peut vraiment imaginer qu'ici la nature n'a pas été très impactée par l'homme à la vue des richesses de la nature tout autour de nous.
Un monde sans hiver.
Un monde sans hiver.
Un monde sans hiver.
Pam est en face d'une des îles les plus réputées pour le tourisme à Raja Ampat, Pianemo. Pianemo ressemble un peu à Waiyag, C'est un archipel de petites îles en dôme parsemées dans un lagon turquoise. Étant moins loin des villes que Wayag, cet archipel a été très exploité. On y trouve de nombreuses guest houses, des clubs de plongée, et la plupart des meilleurs points de vue de l'île ont des constructions pour en faciliter l'accès et rendre le lieu instagrammable. Ce n'est pas vraiment le genre de lieu dans lequel nous aimons aller avec Vernon. Pourquoi pas en profiter pour le visiter ? Tout doit être vide. Pianemo n'est pas juste à côté, mais Vernon me propose d'y aller en canot. Ce sera moins compliqué que de trouver un endroit où jeter l'ancre sur place. Après un gros brunch, nous décidons de rejoindre Pianemo avec masque et tuba dans le canot, malgré un temps pas très engageant. Je vois peu à peu Chielion s'éloigner. Nous avons plus de 5 km à parcourir et le vent se lève, à contre-courant de la mer, créant des vagues particulièrement inconfortables. C'est la première fois que je parcours une telle distance sur le canot. La pluie commence à tomber et j'ai la sensation d'être dans une coquille de noix au milieu d'une mer qui s'agite. Je commence à avoir une boule au ventre et bien entendu, en bonus, un petit mal de mer. J'observe d'où nous sommes partis et où nous allons, tout me semble extrêmement loin maintenant. Alors que nous naviguons depuis plus de 20 minutes, Vernon m'annonce que nous devons être à mi-chemin. Seulement à mi-chemin. Mais quel enfer ! Voyant ma mine dépitée, Vernon me propose que nous essayions de pêcher pour me changer les idées. Il a pris à bord deux lignes et des leurres pour faire un peu de pêche à la traîne. Je me concentre sur ma ligne, la laisse aller, la remonte et la laisse aller. Effectivement, le temps passe un peu plus vite, avec ma ligne entre les mains. La pluie s'arrête et le vent sèche nos vêtements. Les arbres de l'île de Pianemo commencent à être assez grands pour que je puisse m'estimer en sécurité. Nous ne sommes plus très loin. Alors que nous approchons doucement de l'île, le bateau ralentit, puis s'arrête net, comme si nous étions pris dans quelque chose. Je regarde autour de nous et vois Vernon se débattre avec la ligne. Il m'annonce qu'il a sûrement dû se prendre dans un rocher. Alors que je regarde le bout de sa ligne, j'aperçois une grosse masse sous l'eau. Nous avons attrapé quelque chose. Vernon remonte la ligne tant bien que mal et sort enfin un énorme thésard. Un poisson succulent à chair blanche. Il doit bien faire un mètre et il est particulièrement dodu. Après avoir remonté cet énorme poisson sur le canot, nous reprenons notre route et arrivons à Pianemo. Malheureusement, après être entré de quelques mètres dans la baie principale, la plus belle partie de l'archipel, une immense corde indique qu'en raison du Covid, la baie de Pianemo n'est plus accessible. Nous sommes un peu déçus. Mais il nous reste les abords extérieurs à visiter. Nous trouverons bien de jolies baies ou des récifs coralliens à observer. Sur une petite plage, nous enfilons palmes, masques et tuba et partons explorer les fonds marins avec une lumière bien étrange due à la météo orageuse. Après quelques heures sous-marines, voyant de gros nuages s'accumuler à l'horizon, nous décidons de regagner Chielion. Cette fois, Vernon conduit à vive allure. Le canot bondit d'une vague à l'autre. Il ne souhaite pas que nous soyons dans le canot quand l'orage arrivera. Je me cramponne aux poignets. La pluie commence de nouveau à tomber, nous sommes trempés jusqu'aux os et frigorifiés. Nous arrivons tout de même juste à temps pour éviter l'orage qui sera finalement assez bref.
Globule Radio.
Un monde sans hiver. c'est l'heure d'une courte escale musicale. À tout de suite. S'éloigne au loin, il laisse place à d'immenses nuages roses orangés d'un côté et bleus outre-mer et gris de l'autre. Une lumière du ciel comme je n'en ai jamais vu. Tout est sépia. Les cocotiers verts arborent des reflets dorés et la mer prend des couleurs vert émeraude aux reflets mauves. J'ai l'impression que rien de ce que nous voyons autour n'est vraiment réel. Jusqu'au coucher du soleil, qui arrivera à percer sous les nuages, nous assistons à un spectacle grandiose de la nature. Vernon et moi essayons tant bien que mal de capturer la beauté de l'instant avec nos appareils photo. Mais seule ma mémoire a réussi à garder la magie de cette fin de journée. Avant de nous lancer dans notre excursion en ville, nous passons une fois encore à Bessabeille pour un ou deux jours avant de prendre la direction de Waïsaï. Christian et Viviane sont toujours à nos côtés. La communauté de plaisanciers est encore présente. Ils acceptent Vernon et moi sans souci, mais demandent à Viviane et Christian de rester à l'écart car Viviane s'est rendue en ville. Je trouve ça un peu déplacé. D'autant plus qu'ils ont tous accepté son curry de poisson qu'elle a préparé dans des boîtes pour chacun des 10 bateaux, mais par contre, ils ne souhaitent pas l'inviter à aucune de leurs activités. Comme c'est mon amie, et que je m'entends bien mieux avec elle qu'avec les autres, je décide de partir faire des sorties snorkeling, des excursions avec elle. Je sens bien les regards lourds sur nous quand nous partons ensemble sur un canot quelque part. Bessabeille, c'est en fait un peu comme être dans un quartier résidentiel, où chacun épie ses voisins à travers les rideaux pour ragoter. Quelle ironie, partir à l'autre bout du monde, sur un voilier, pour retrouver les vieilles ambiances de voisinage, c'est vraiment fou. Assez vite, Christian, Viviane, Vernon et moi, décidons de mettre les voiles pour de bon, loin de Bessabeille. Retour à Frewen, où nous passerons la nuit avant de mettre le cap sur Waisae. À Friwen, on se lève toujours tôt. Ici, il y a une espèce d'oiseau qui adore venir chanter au-dessus de notre fenêtre dès que la lumière du jour pointe son nez. Son chant est l'un de mes préférés. Il m'avait grandement marqué lors de mon premier séjour à Raja Ampat l'an dernier. Ce matin, je suis un peu nerveuse. Mes derniers souvenirs de Waisae pendant notre seconde quarantaine ne me sont pas très agréables. Et je ne sais pas du tout à quelle sauce nous allons être mangés. Cela fait presque 2 mois que nous sommes loin du monde. Et l'idée de nous rendre volontairement dans un lieu où les autorités ont mis en place des règles contraignantes à suivre ne m'emballe pas des masses. J'essaye de me rassurer, ça peut aussi très bien se passer. Nous remontons l'ancre et longeons l'île de Friwen. Le vent souffle déjà fort, Vernon lève les voiles et nous filons assez vite en direction de Waisae. Nous avons beaucoup de gîtes, et mes cheveux fouettent mon visage avec ce vent. Le soleil tape déjà assez fort, malgré les heures matinales. Bizarrement, le mouvement à bord semble calmer mon stress. Je suis plutôt contente de naviguer et de partir faire quelque chose de nouveau. Il nous faudra 3 heures pour rejoindre Waisae. Waisae est une petite ville en bord de mer. Nous pouvons généralement jeter l'ancre à 2 endroits, soit au port et louer un scooter pour nous rendre dans le centre, soit à l'embouchure d'une petite rivière et la remonter avec le canot pour nous rendre directement dans le centre. Étant donné que lors de notre dernier passage à Waisae, nous avons quitté la marina sans l'accord du Harbour Master, il est hors de question d'y retourner et de prendre le risque d'y rester coincé. Nous n'avons donc plus qu'une seule option, la plus compliquée à cette saison. Le mouillage près de la rivière est très exposé, et le vent soufflant pas mal aujourd'hui, la mer risque d'être bien agitée. De plus, nous n'avons pas calculé non plus que c'est un jour de forte marée. Quand nous arrivons près du mouillage, la marée est basse, et les vagues sont immenses. Le bateau de Jim, l'homme qui nous avait ramené illégalement à Raja Ampat, est déjà à l'ancrage ici. Il balance violemment, j'ai le mal de mer juste à le regarder. Nous assistons à quelques passages des longs bateaux des pêcheurs locaux sur de véritables vagues de surf et nous comprenons assez vite que ça ne va pas le faire pour nous.
J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Un monde sans hiver.
Sans hiver.
Vernon est en colère d'avoir navigué jusqu'ici sans pouvoir jeter l'ancre. Puis nous nous rappelons que, sur notre route, nous avons longé une petite île à quelques miles d'ici, peut-être à 20-30 minutes, qui avait un mouillage abrité du vent où nous avons vu quelques bateaux de tourisme au mouillage. Nous allons pouvoir nous y abriter pour quelques heures et attendre que la marée monte. Sur place, le mouillage est assez calme. Pour passer le temps, nous plongeons et rejoignons l'île à la nage pour une petite exploration. L'île se trouvant en face de la ville, elle doit être habituellement un lieu touristique assez fréquenté. Pour preuve, de nombreuses constructions pour accueillir les touristes se trouvent à l'entrée de l'île. Elles tombent un peu en ruine aujourd'hui. J'y reconnais un kiosque pour accueillir les visiteurs et un chemin bétonné monte en colimaçon dans la jungle jusqu'à une étrange tour de béton, assez vilaine, surmontée d'un magnifique toit doré en forme de dôme. Une étrange statue semble être à l'intérieur. C'est probablement un monument religieux.
Un monde sans hiver.
Un monde sans hiver.
La suite d'un monde sans hiver dans un instant.
From my
Vous êtes de retour dans un monde sans hiver.
Avec Globule Radio.
Après midi, nous retournons vers Waïsaï. Le vent s'est un peu calmé, mais les vagues sont toujours assez grosses. La marée est plus haute, nous passons donc sans trop de difficultés et jetons l'ancre non loin du bateau de Jim. À peine le bateau à l'arrêt que je commence à me sentir malade. C'est un véritable manège à l'intérieur et nous devons rester ici une trentaine de minutes pour être sûr que le bateau est bien ancré. Je m'agace, mon mal de mer me rend grognon, tout me semble compliqué. Faire mon sac, préparer le canot, fermer le bateau, je suis épuisée, irritable et j'ai la nausée. Nous décidons enfin de monter dans le canot qui danse à l'arrière du bateau. Nous essayons tant bien que mal de monter à bord, en essayant de comprendre le rythme des vagues dans cette eau brunâtre. Une fois dans le canot, nous sommes vite trempés et prenons la direction de la rivière, ballottée par les rouleaux d'eau. Une dernière grosse vague et nous voilà dans la rivière. L'eau se calme. Nous naviguons dans une eau sombre, emportant les déchets de la ville au large. Des sacs plastiques, des poissons morts, des restes de légumes pourris. Des épaves de bateaux échouées sur les rives longent la rivière. Une dizaine de pêcheurs sont dans l'eau, jusqu'au cou, un panier d'osier sur la tête et une ligne de pêche à la main. Je n'aimerais ni être immergée dans cette eau, ni manger les poissons qu'ils pêchent. Une odeur âcre de vase et de pourriture remonte de l'eau. Nous apercevons sur notre gauche un groupe de militaires devant une grande tente où il est indiqué « POSCO ». Un militaire souffle dans son sifflet et nous fait signe de le rejoindre. Je soupire et me remémore un peu nos mésaventures avec l'armée lors de notre arrivée à Raja-Ampat. Pourvu que ça se passe mieux cette fois-ci. Tour d'horizon d'un monde sans hiver. Une histoire, une observation, une anecdote. Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la Terre. Cette semaine, j'ai eu envie de faire un saut dans le temps, revenir à ma toute première visite de Raja-Ampat et vous conter mes premières impressions. Il faut savoir que c'était la toute première fois que je sortais de l'Europe. Dans quelques minutes, je serai à Sorong. Je viens de faire plus de 30 heures de voyage, dans 3 avions différents, seul. Je suis fatiguée et j'appréhende. Je connais Vernon depuis 4 mois et nous sommes ensemble, mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir très souvent. Uniquement lors de ses passages à Chamonix pour le travail. Nous continuons à nous écrire beaucoup, malgré son départ pour l'Indonésie. Il m'a invité à le rejoindre sur son bateau. J'ai sauté sur l'occasion, mais je n'ai aucune idée d'à quoi m'attendre. Il m'a envoyé quelques photos. J'ai tapé sur Google « Raja-Ampat », regardé un peu où ça se situe. Mais comme je suis une brêle en géographie, ça ne m'a pas vraiment aidée à imaginer quoi que ce soit de ce lieu. Par le hublot, au lever du jour, je peux voir des centaines de petites îles encerclées d'un trait d'eau turquoise. Nous nous préparons à atterrir. Un air de piano répétitif passe dans la ville. Je suis inquiète. Et si Vernon n'était pas à la sortie de l'aéroport? Je n'ai aucun moyen de le joindre. Je suis sur une île, seule, à l'autre bout du monde. Quand je sors de l'avion, ma première impression, c'est l'odeur. Une odeur de vieille maison de campagne, un peu comme chez mon grand-oncle. Puis celle doucereuse des fruits trop mûrs. Et derrière, une note de fond, indescriptible. Quelque chose qui me rappelle que je suis loin de chez moi et que je ne connais rien de ce lieu. Une odeur de mystère et d'aventure dans l'air épais et moite de Raja-Ampat. Bizarrement, la chaleur et la lourdeur de l'atmosphère m'apaisent, comme si tout devenait plus lent, plus calme. Mon manque de sommeil joue peut-être aussi sur cette impression. Je ne réalise pas vraiment où je me situe sur la planète, mais mes inquiétudes s'envolent. L'aéroport de Sorong est tout petit. Je n'ai qu'un bagage à main, alors je suis libre de sortir très rapidement. Je passe la porte et voilà que des centaines de visages s'approchent et tentent de m'avoir comme cliente dans leur taxi. Je ne sais même pas dire non merci en indonésien. J'aurais pu au moins apprendre ça avant de partir. Je me contente d'un nom de la tête et longe l'aéroport en cherchant des yeux Vernon. Je ne le vois pas. Quand on s'est donné rendez-vous, il m'avait bien prévenu qu'il se pourrait qu'il ne soit pas à l'heure, voire même au jour. Les caprices de la météo peuvent faire qu'il n'ait pas pu arriver à temps en bateau. Si c'était le cas, je ne sais pas bien ce que je ferais. J'imagine que quelqu'un ici pourrait m'amener dans un petit hôtel. Je pourrais peut-être joindre Vernon si je trouve du Wi-Fi. Mais il n'y en a pas dans l'aéroport. Je chasse ces idées et me contente de regarder la lumière diaphane du matin, si différente ici. Alors que mes yeux balayent le paysage, je remarque soudain un homme bien plus grand que la moyenne, à la peau plus rose que le reste du monde qui s'agite. Je reconnais Vernon. C'est la toute première fois que je le vois en tenue d'été. T-shirt, bermuda et tongs. Bien loin de mes derniers souvenirs de lui, emmitouflé dans ses tenues de snowboard. En m'avançant, il me reconnaît et vient à ma rencontre pour m'enlacer. Même son odeur ici me semble différente que dans mon souvenir. Il prend mon sac et nous montons dans un taxi. Je regarde par la fenêtre les maisons colorées reliées par des toiles de fil électrique. La fenêtre est entrouverte. Je sens les odeurs de fleurs, d'huile de friture, de café, de poubelle. C'est étrange comme les odeurs de chaque chose sont incroyablement plus fortes dans cette atmosphère épais et lourde. Nous nous rendons au port pour prendre le ferry jusqu'à Waisai, où il a laissé Chielion. Très vite, je ressens une sensation de soif sous la chaleur. Il n'est pourtant que 9h du matin. Vernon me propose d'aller boire un café et m'emmène dans une petite bâtisse verte. À l'intérieur, deux hommes sont assis, cigarettes à la main. Une forte odeur de clou de girofle sucré se dégage de leur fumée qui plane dans l'air. Une femme, d'une vingtaine d'années, est derrière une table en formica. Devant elle, des grandes boîtes en plastique, remplies de beignets de différentes formes. Je reconnais l'odeur des épices et du sucre. Vernon me demande ce que je souhaite boire. L'esprit embrumé, je lui demande de me prendre la même chose que lui. Vernon demande deux cafés au lait sucré. Dua kopi, dengan gula susu. Je prête attention pour la première fois à cette langue, ses sonorités. Je la trouve jolie et j'aime entendre Vernon prononcer ces mots. La femme sort deux mugs dépareillés et met à bouillir de l'eau. Elle remplit les tasses d'une cuillère de café, deux cuillères de sucre et une cuillère de lait en poudre. Puis verse l'eau et nous tend les deux tasses. Elle nous demande 12 000 roupies. Vernon sort des billets qui me sont inconnus et je n'ai aucune idée de ce que représente cette somme. Je goûte mon café et grimace un peu. C'est incroyablement sucré. Vernon m'explique qu'ici, tout est très sucré et qu'il va falloir que je m'habitue. Le café avalé, nous sortons sur les quais du port. Un fumet fort de poissons, d'eau iodée et de diesel flotte dans l'air. Quelques hommes ont des lignes à la main, au milieu de gros bateaux en acier. Les enfants jouent sur les quais, je les entends rire et je les regarde courir. Je souris. Je n'ai pas besoin de comprendre leur langue pour comprendre leur jeu et leur rire. Je crois que c'est universel. Un homme fait signe aux personnes sur le quai. Le ferry est ouvert, nous pouvons embarquer. Nous entrons dans une immense cabine avec 3 rangées de 4 sièges. Beaucoup de monde semble revenir du marché, avec des sacs pleins de fruits et de légumes. Je m'assois et observe 3 jeunes filles manger un fruit étrange à la peau marron. Vernon leur demande si nous pouvons en avoir un. Les filles timides explosent de rire, puis finissent par nous donner un fruit. Il est tout rond, avec une peau brune en petites écailles. Vernon m'apprend qu'on l'appelle « snake fruit » ou « fruit du cobra », dû à ses petites écailles. Vernon le pèle et je sens l'odeur sucrée du fruit. À l'intérieur, il y a 3 gousses à la chair blanche. Il m'en tend une. Je mords dedans et mâche. Une fois encore, je grimace. Vernon se marre. Le goût est bon, sucré et acidulé, mais c'est très astringent, comme si ma salive disparaissait de ma bouche au contact de la chair de ce fruit. Vernon ne l'aime pas beaucoup non plus. Nous le finissons tout de même. Cela fait 48 heures que je mange de la nourriture aseptisée d'aéroport et ça ne peut pas me faire de mal. Je pose ma tête sur l'épaule de Vernon et m'endors, sans même m'en rendre compte. 2 heures plus tard, nous arrivons à Waisai. Je pose pour la première fois mes yeux sur Chiélion, dans le port. Il me semble plus petit que ce que j'imaginais. Vernon fait signe à un autre bateau. 2 jeunes hommes montent dans un canot et viennent nous chercher sur le quai. Malgré l'eau un peu trouble, je vois des poissons jaunes et noirs. Je les trouve magnifiques. Le canot glisse vers Chiélion dans le ronron du moteur. Ça y est, me voilà chez Vernon, sa vraie maison. J'en fais le tour rapidement. Je me sens un peu à l'étroit et un peu claustrophobe. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vernon semble si heureux qu'il finit par me partager son enthousiasme. Après une 20aine de minutes, la sensation de petitesse disparaît. Je commence à prendre mes marques. Chiélion deviendra peu à peu mon nid, à moi aussi, au point que je pleurerai à chaudes larmes en le quittant 3 semaines plus tard, et que je n'aurai qu'une idée en tête, y revenir le plus vite possible. Dans le prochain épisode d'Un monde sans hiver, Vernon et moi nous rendrons dans la ville de Waisai, pour avoir les autorisations de se déplacer sur le territoire indonésien. Nous préparerons notre visite à Warimak, petit village reculé de Raja Ampat, pour donner l'argent que nous avons récolté pour l'école et ses élèves. Un monde sans hiver,
avec Globule Radio.
Une production originale par Marie-Morgane Rousselin. Vous pouvez retrouver et réécouter cet épisode sur le site globule.chamonix.radio et sur les plateformes encore.fm, Deezer, Spotify et Apple Podcast. Retrouvez nos aventures en vidéo dans une version anglophone sous-titrée française sur la chaîne YouTube Sailing Learning by Doing. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez en savoir plus ou que vous avez des questions sur notre voyage en mer, n'hésitez pas à me suivre et m'écrire via Facebook ou Instagram @unmondesanshiver tout attaché. Un monde sans hiver est une production indépendante, sans sponsor ni publicité. Mais vous pouvez participer aux frais de production en faisant un don sur la plateforme Patreon ou PayPal. Toutes les informations à ce sujet sont à retrouver sur la page de mon émission. On se retrouve vite pour la suite de mes aventures. À bientôt.
Vous écoutez Globule Radio sur 90.5.